Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 34. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caradoni et Cyprien Simon.
Bravo. La Dream Team au complet, quoi. C'est parti jusqu'à 20h. Soyez tous les bienvenus. On défait le monde. Vous avez l'habitude le vendredi soir. Vous commentez, vous réagissez. Le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. On a plein de choses à vous raconter. Donc c'est parti. Voici le sommaire.
Mai 2020, mai 2021. Deux déconfinements, deux ambiances. Analyse de deux situations sanitaires qui pourraient sembler comparables et qui pourtant n'ont rien à voir. On se fait une toile ? Allez, dans 12 jours, réouverture des cinémas. Plus de 400 films attendus. Comment gérer l'embouteillage ? On allumera la lumière sur les salles obscures. Comme tous les vendredis, le très attendu loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, une œuvre collective de nos gouvernants.
Oui, aux oubliettes, le nouveau monde. Après cette semaine, c'est officiel, la bonne vieille politique à l'ancienne est de retour.
Le billet retour. Alors d'habitude, c'est quand on vient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus. Mais alors là, Brice, vous innovez. Hein, va falloir nous expliquer, puisque vous revenez sur une info dont on a parlé toute la semaine, Napoléon.
Oui, mais toute la semaine, on vous a dit que Napoléon avait tout inventé ou presque. Ben, comment on faisait avant ? Eh ben, je vais vous dire ce qu'il y avait avant Bonaparte et dont il s'est largement inspiré.
D'ici 20h, vous aurez évidemment vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, des jeunes filles qui n'ont pas l'intention de se faire marcher sur les pieds. Et bien entendu, vers 19h40, le jeu. Et un séjour en relais château en bord de mer à vous offrir. On ne se refuse rien, on défait le monde, saison 2, épisode 34.
Je peux y aller cette fois ?
Ouais, allez,
on y va, on
est
pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Priorité aux surfeurs, les amis, 19h19, surf tous les matins, 6h40, juste avant 8h. Cyprien Sinis refuse rien, le vendredi aussi, c'est surf de la semaine.
Allez, c'est plaisir, parti. C'est cadeau. Eh bien, cette semaine, une mise en garde. Oui, une prédiction qui nous a interpellés. Elle est signée Marine Le Pen.
Nous venons de vivre 4 ans de chaos. Si Emmanuel Macron était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général.
Oui, si Emmanuel Macron est réélu, ce sera l'apocalypse, le chaos. Mais alors, le chaos comment ? Le chaos, par exemple, comme celui qu'elle avait déjà prédit en 2008 avec l'euro ?
L'euro va s'effondrer. Et parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, ça va être le chaos. Le chaos économique et social.
Et mais dites donc, elle serait pas un peu voyante et fan de Mylène Farmer, Marine Le Pen, parce que... Hey,
à côté.
Le chaos avec elle, ça marche tout le temps pour toutes ses prédictions, comme l'a relevé le HuffPost.
Ce texte annonce un grand chaos.
Le traité de Marrakech, il annonce le chaos, TKO et les négociations sur le Brexit. C'était quoi déjà les prédictions sur le Brexit ?
Ça s'appelle la stratégie du chaos.
Non mais dis donc, mais ça marchait pas à chaque fois. Non, faudrait penser à lui envoyer une place pour le prochain concert de Mylène Farmer quand même. Bon sinon, au gouvernement, c'est pas le chaos, mais visiblement on continue le concours Lépine de l'idée la plus improbable pour contrer le Covid. C'est parti. Attention, un nouvel entrant cette semaine. Vous pensiez avoir tout vu avec...
Pas question de faire bronzette, l'idée... C'est la plage dynamique.
La plage où l'on ne peut pas s'allonger pour bronzer. Oui, la plage vrai. Dynamique, on s'en
la plage
plus.
Dynamique, hein. On s'en
c'était bien
pas.
Ça. Ouais, c'était bien. Vous pensiez avoir tout entendu cet hiver avec...
Il sera loisible de se rendre dans ces stations. Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public.
Les stations de ski sans le ski. Je signale au passage que les remontées mécaniques pourront rouvrir le 19 mai.
Hein. Ah, chouette.
C'est officiel. Bon, on ne sait pas trop pourquoi.
Il n'y a plus de neige. Ouais.
Ben non. Eh bien, encore plus fort cette semaine avec cette nouvelle innovation. Accrochez-vous.
Tout ce qui est parc à thème, effectivement, pourra réouvrir dès le 19 mai, mais les attractions resteraient fermées dans un premier temps.
Ah bon, mais oui, le parc d'attractions, mais vrai. Sans les attractions, mais si. J'allais quand même aller chercher celui-là. Il était beau.
Non, franchement, mais du coup, on y fait quoi ?
Ah, ben vous baladez dans le parc d'attractions.
Avec Astérix.
Voilà, pareil. Franchement. Ouais, ouais, bon, on l'avait pas vu venir en tout cas. Un peu comme cette annonce de Ségolène Royal d'ailleurs, qu'en fait, personne n'a vu venir, ni même relevé en réalité.
Je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle. Voilà ce que vous voulez entendre. Mais arrêtez ça. Vous voulez vraiment la dépêche AFP?
Bah oui, c'est
non, non, Ségolène, il n'y aura pas d'urgent de l'AFP pour dire que vous n'êtes pas candidate. Non. Désolé, c'est fini maintenant, faut rentrer. Enfin, dans la série de la loose, le PSG a franchi un pas supplémentaire cette semaine. Une première dans l'histoire du foot, peut-être. Bon, alors, vous les suivez sur RTL, éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais cet hiver à Noël au PSG, bah, ils avaient fait ça.
Coup de tonnerre au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a été limogé de son poste d'entraîneur du PSG.
Il vire l'entraîneur qui part à Chelsea. Et c'est qui se qualifie cette année pour la fameuse finale ?
Chelsea en finale de la Ligue des Champions, deuxième finale de suite avec deux clubs différents pour Thomas Tuchel.
Bon alors là vous vous dites c'est pas de bol, bon ça peut arriver. Mais alors avant Tuchel, l'entraîneur qu'ils avaient viré, c'était l'Espagnol Unai Emery. Et dans l'autre Coupe d'Europe de la Ligue Europa, c'est qui s'est qualifié pour la finale hier soir ?
Unai Emery, qui qualifie donc Villarreal pour sa toute première finale de Ligue Europa.
Eh oui, Unai Emery, comme quoi, au bout d'un moment, le problème, c'est peut-être pas forcément l'entraîneur. Allez, vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine.
Sur le Paris Saint-Germain, on peut quand même douter de votre objectivité, Cyprien.
Mais, ouais, Cyprien, supporter de l'OM, certes, mais les faits, rien que les faits, mon cher.
Ce sont des faits.
On défait le monde jusqu'à 20h.
RTL Soir, jusqu'à 20h. On défait le monde.
La grosse info du soir, Cyprien, elle concerne le déconfinement.
Eh oui, on est un peu en train de vivre le déconfinement saison 2. C'est le premier week-end sans restriction de déplacement. Et alors, il y a un an, on commençait aussi à rouvrir les vannes. Du coup, Laurent, eh ben, on a voulu savoir si les situations de mai 2020 et de mai 2021 étaient comparables. En gros, bah, est-ce qu'on est mieux ou est-ce qu'on est moins bien que l'an passé au moment de déconfiner pour de bon, quoi.
Alors, comparons ce qui est déjà comparable. Actuellement, en France, un peu plus de 5100 personnes se trouvent en réanimation pour Covid-19. Il y a un an, quasiment jour pour jour, on comptait 3430 cas en réa. Vous voyez l'écart, on est donc à un niveau plus élevé en ce moment. Je prends un autre exemple, une vue d'ensemble plus large. 26 000 personnes hospitalisées en ce moment. Et il y a un an, près de 25 000 l'étaient en France. La situation sanitaire est donc un peu plus difficile à l'heure actuelle.
Mais alors pourquoi, Laurent, vous ne parlez pas de taux d'incidence ?
Alors vous avez raison, j'ai posé la question à des épidémiologistes, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants, il est de 224 actuellement. Mais en mai 2020, nous ne réalisions pas le même nombre de tests pour déterminer les cas positifs. Les chiffres sur lesquels nous pouvons nous appuyer sont donc ceux en réanimation, et ce bilan plus important en ce moment qu'il y a un an se vérifie tout simplement sur le terrain. Exemple, à l'hôpital de Garges dans les Hauts-de-Seine, le professeur Gilali Hanan est le chef du service de réanimation.
Il y a un an, au mois de mai, je me souviens qu'on voyait concrètement la décrue en réanimation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de nouvelles sollicitations, plus de nouveaux entrants, et on gérait les patients hospitalisés qui, petit à petit, sortaient.
Un an plus tard, aujourd'hui, en mai 2021, la situation est différente.
Ce mois de mai-là, pour l'instant, à l'heure à laquelle on se parle, franchement, moi, je ne vois pas la décrue dans mon service. On a toujours autant de lits occupés par des patients atteints de formes graves de Covid. Et on a toujours des appels quotidiens pour prendre en charge les patients.
Alors au niveau national, un point positif, le nombre de personnes en réanimation diminue, une baisse de 10% par rapport à la semaine dernière.
Mais alors, quand on vous écoute quand même, on a l'impression qu'on est dans une dynamique beaucoup plus négative cette année.
Ouais, le contexte n'a rien à voir entre mai 2020 et mai 2021, le professeur Gilali Hanan nous le rappelle.
Ça s'explique parce qu'on est encore aujourd'hui à environ 20-25 000 contaminations tous les jours, alors qu'à la même époque il y a un an, le nombre de contaminations du fait du confinement total avait considérablement été réduit, largement à moins de 1000 par 24 heures.
Et encore une fois, le nombre de tests réalisés n'était pas le même. Et prenons un peu de hauteur avec le professeur Antoine Flao, épidémiologiste. Il dirige l'Institut de santé globale de Genève et le virus ne se diffuse plus de la même façon aujourd'hui.
Il y avait cette composante de hasard dans les clusters qui apparaissaient à un endroit ou à un autre, qui apparaissent beaucoup moins ici. C'est partout, dans toutes les régions de France, qu'il faut essayer d'étouffer un feu qui consume un petit peu l'ensemble des territoires. Le virus lui-même n'est pas tout à fait le même. On a affaire à un virus qui est probablement plus agressif, en tout cas plus transmissible.
Et l'arrivée des variants, et notamment anglais, est une complication de plus dans la lutte contre la Covid-19.
Donc là, si on se base uniquement sur les faits, sur les chiffres, la situation est clairement plus compliquée qu'il y a un an. Alors pourquoi on déconfine ?
Les vaccins sont là, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et écoutez ce que l'on disait sur RTL le 6 mai, à quelques jours du premier déconfinement.
Le grand laboratoire pharmaceutique Pfizer débute un essai de vaccin sur les humains.
Les chercheurs d'une université new-yorkaise ont donc commencé à vacciner des volontaires depuis le début de la semaine.
Et aujourd'hui en France, plus de 16 800 000 personnes ont déjà reçu une première dose, ce qui représente 25% de la population, 7 500 000 deux doses. Mais on n'a pas encore atteint l'immunité collective. Les choses vont sans doute s'accélérer. Les masques, c'est aujourd'hui plus simple de s'en procurer. Il y a un an, c'était différent. Exemple, le 4 mai 2020.
5 millions de masques écoulés en une matinée chez Lidl, des rayons vides à la caisse des supermarchés et parfois, comme on s'avoue, des clients qui en viennent presque aux mains pour avoir la dernière boîte.
Le paquet de 50 masques pouvait se vendre entre 30 et 40 euros.
Ah oui, j'avais payé 50 euros, moi,
ah bah oui,
dans un supermarché.
Et ce matin, j'ai vu une publicité dans un quotidien, moins de 5 euros les 50 masques dans une grande surface, pas de pénurie.
Alors les spécialistes santé, Laurent, ils en pensent quoi?
Bah, c'est comme depuis le début de l'épidémie, hein, il y a deux écoles. Le professeur Antoine Flahaut parle d'un déconfinement très prudent.
Ce qui justifie le fait d'enlever les restrictions, c'est que les restrictions ont payé, ont porté leurs fruits, et qu'aujourd'hui, on a cassé la courbe d'épidémie galopante, exponentielle, qui était un peu effrayante. La vaccination va aider à faire barrière. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a protégé les personnes les plus à risque.
Un avis que ne partage pas le professeur Djilali Annane, le chef de service de réanimation.
D'un point de vue sanitaire, la réponse, elle est non, c'était pas raisonnable. Par contre, j'entends et je peux admettre et je peux accepter qu'il y ait d'autres facteurs à prendre en compte dans une société que les critères purement sanitaires. On va trop vite. Voilà, moi je dis attention, ne démontons quand même pas trop vite l'échafaudage, hein, parce que le virus, il n'a pas disparu et l'épidémie n'est pas finie.
7 mai 2020, 7 mai 2021, deux situations différentes. On espère ne pas faire la même enquête le 7 mai 2022.
Et l'enquête du soir, elle est signée Laurent Tessier dans On défait le monde. Il est 19h28.
À suivre dans On défait le monde,
la première info pour briller au dîner. Et vous saurez tout sur le ciné. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et il y en a trois comme tous les vendredis soirs dans On défait le monde. Et la première de ce vendredi, c'est avec Brice et ça concerne Napoléon.
Oui, on le disait tout à l'heure, toute la semaine on a parlé de son héritage qui va bien au-delà de nos frontières. Alors je voulais vous faire écouter cela.
Kézako.
Alors c'est ouais, ça.
C'est l'hymne polonais.
Absolument.
Ah,
c'est l'hymne polonais. Et je vous fais. C'est bon, je peux y aller?
Oui, pardon.
Je vous fais particulièrement écouter cette partie. Tendez l'oreille. Vous n'avez pas entendu. Non. Pourtant, vient d'être dit Bonaparte. Bonaparte est cité dans l'hymne polonais. En français, ça donne Bonaparte nous a donné l'exemple. Comment nous devons vaincre? Alors, si vous n'avez pas bien entendu, j'ai fait faire la lecture du texte en polonais, c'est un peu plus clair.
Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.
Voilà, Bonaparte, là vous l'avez bien entendu. Ah ouais. Au passage, on remercie Maya, qui est une amie qui parle polonais, qui a accepté la lecture. Eh Bonaparte bien. Cité dans l'hymne polonais, voilà.
Ah, c'est pas rien ce soir.
Pas mal.
Vous connaissiez l'hymne polonais, vous?
Bah, parce que Arkadiusz Milik, le joueur de l'OM, il est polonais.
À chaque fois, il y a du foot.
Non, mais au secours, à chaque fois, il y a de l'OM. Le foot ne va pas au-delà de Marseille.
19h32.
Pour l'instant, la meilleure info, c'est celle de Laurent. Hein.
Merci.
Merci. RTL Soir, on défait le monde.
Mais ça permet aux auditeurs de voir que tout ça est truqué, bravo.
C'est quand un spécialiste nous aide à mieux comprendre l'actualité.
Et vous savez ce que c'est ça?
Bah, un embouteillage.
C'est l'embouteillage des films qui arrive pour la réouverture des cinémas dans 12 jours tout pile. Plus de 400 films dans les tuyaux.
Oui, bien sûr, on se demande comment les exploitants vont gérer cet afflux massif, quels films seront à l'affiche et surtout si le secteur s'attend à une reprise en fanfare.
Et pour répondre à toutes ces questions, pour allumer la lumière sur les salles obscures, on a contacté Jocelyn Bouissy. Alors, c'est le directeur des cinémas CGR. Il gère quand même plus de 700 salles dans toute la France. Et d'abord, comment s'organiser face à l'embouteillage de films?
Allez, je vais dire qu'on le fait à peu près comme on le fait tout le temps. Il y a toujours beaucoup de films. Et 400 films, c'est 400 films jusqu'à la fin de l'année. Or, le 19 mai, par exemple, jour de la réouverture, on parle de 32 films. Mmh. Si vous voulez, en nouveauté, c'est la même chose. Sauf que vous greffez des films ou pas bien exploités, pas longtemps à cause de la refermeture, ou des films qui sont sortis sur d'autres supports. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on est tellement à l'arrêt depuis bientôt 14 mois. Il y a du film, mais vous savez, il manque aussi peut-être pas assez de blockbusters. Je vais vous dire, honnêtement, je pense que le plus gros embouteillage, il n'est pas dans les 3 mois à venir, il est peut-être un peu en fin d'année, avec beaucoup de blockbusters. Là où ça va être compliqué, c'est à partir du mois d'octobre. Il y aura beaucoup plus de films qu'on décalé par rapport à des sorties mondiales et de certitude par rapport à la pandémie. Mais vous savez, ça s'appelle un problème de riche. Et quand vous êtes fermé 14 mois, quasi, je peux vous dire que qu'est-ce que j'attends que j'ai trop de films? Le marché se fera et c'est le spectateur qui décidera.
Donc plutôt embouteillage à l'automne, hein. Et du coup, on va voir quoi sur les écrans dans 12 jours là?
Bah, des nouveautés, mais pas que, les explications de Jocelyn Bouissy.
Là, si vous voulez, il y a un mélange de genres, c'est-à-dire il y a des ressorties qui n'ont pas été bien exploitées, comme Adieu les cons, qu'on veut absolument passer parce qu'ils n'ont pas été hyper bien exploités de par la refermeture des cinémas, ou 100% loup. Et après, il y a des films en sortie confidentielle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas pas des films qui sont sortis en VOD ou DVD, on fera des reprises parce que les gens ne les auront peut-être pas vus. Nous, on fait en sorte toujours d'exploiter, en tout cas chez CGR, au moins le film, même s'il ne trouve pas forcément son public, un minimum de 15 jours. Donc ça sera encore le cas. Il y a une rotation. Évidemment, si vous me demandez est-ce qu'un film dans un multiplex de 3 salles aura autant de visibilité que dans un multiplex de 12 à 15 salles, évidemment que non. C'est le spectateur qui va décider. Ben, si le film trouve pas son public, je suis honnête, le film ne fera pas un mois l'affiche. Mais vous savez, c'est toujours le cas. Et ça fait des décennies que c'est comme ça en France.
Un peu de bousculade donc, mais on va quand même avoir droit à des sessions de rattrapage sur les films qu'on a ratés à cause de la pandémie. Et au niveau de la reprise, ils sont euphoriques, les exploitants.
Ah, ils sont ravis de rouvrir, évidemment, mais ne s'attendent pas à l'émeute de spectateurs. Écoutez le directeur des cinémas CGR.
Je reste persuadé que le lien social, la salle de cinéma, ça reste quelque chose de tellement important, l'émotion du grand écran, qu'on aura envie. Or, est-ce que la période sera propice entre la météo, les terrasses de café, les restaurants, le manque de blockbusters? Allez, les 5-6 premières semaines, le temps que les gens seront appropriés, le temps que tout ça se réinstalle. Je pense que ça va être compliqué avant juin, mais tant pis. Vous savez, entre rester fermé, être aidé pour rester fermé et qu'on nous soutienne pour être ouvert, j'ai choisi la deuxième solution depuis longtemps.
Voilà, embouteillage dans les salles obscures. Allume la lumière en ce vendredi soir à 19h35.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller. Attention, c'est celle de Laurent. Le loser de la semaine et le jeu avec à gagner un séjour au bord de la mer. Wow. Ne quittez pas, on arrive.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Après la version polonaise de Napoléon et Brice du génie, deuxième info pour briller au dîner ce soir avec Laurent.
On parlait il y a quelques instants de la réouverture des cinémas le 19 mai. Alors vous pensez que les salles obscures n'ont plus de secret pour vous? Vous vous trompez, surtout vous, Brice du génie. Savez-vous pourquoi les fauteuils de cinéma sont généralement de couleur rouge?
Oui.
Et ouais.
Non, une histoire vers le 19e siècle, un peu comme ça.
Quel tricheur! Alors oui, il faut remonter au 19e siècle. Avant l'arrivée du cinéma, les salles de spectacle, notamment les théâtres, se développent. À l'époque, les fauteuils sont rouges. Cette couleur représente les passions qui se déroulent sur la scène. Le luxe, le rouge, met en valeur la salle. Et quand le cinéma se développe au début du 20e siècle, il faut trouver de la place pour les spectateurs. Et de nombreuses salles de théâtre sont alors réaménagées en salles de projection avec leurs fauteuils rouges.
Qui savait en vrai?
Et bam!
Non, je ne savais pas.
Non, moi, je savais pas.
Mais,
non,
mais cette info est nul quand même.
Ah, vous avez essayé de me perturber.
Une belle
vous
ambiance.
Êtes vicieux, hein.
Une belle ambiance. 19h37.
RTL.
Le loser de la semaine.
L'heure du grand perdant de la semaine, du loser. Et Marie, c'est un peu votre fibre de journaliste du service politique de RTL qui parle ce soir, hein, puisque vous récompensez les politiques justement pour l'ensemble de leur œuvre.
Eh oui, vous vous souvenez, en 2017, on nous promettait le nouveau monde, hein, la fin de la tambouille politicienne, des tripatouillages dégoûtants des partis. Et pourtant, cette semaine nous a offert un festival de politique à l'ancienne, du grand spectacle. Et comme dans tous les bons feuilletons, cela commence par une trahison.
L'annonce par Jean Castex d'un retrait de la liste En Marche au profit de Renaud Muselier dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Républicains décident d'ailleurs de ne plus accorder leur investiture à Renaud Muselier.
Et voilà, les hostilités ouvertes, les LR sortent le grand jeu façon Sarah Bernard.
Vous dire ce matin ma tristesse et quelque part un peu ma honte.
Renaud Muselier ne fait plus partie du Parti Les Républicains.
Pour moi, il n'en fait plus partie.
La pression qui monte, puis une réunion d'état-major à huis clos, totalement confidentielle, pas un mot de fuite.
François Baroin a lancé à Renaud Muselier, tu ne peux pas mettre une balle dans la tête de la droite.
À la sortie, des prises de parole franches, sans langue de bois.
Non, 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 il n'y a aucune division. Il n'y a aucune division. Non, aucune.
On a parlé. C'était très libre et très ouvert.
Un accord trouvé et la droite qui n'a jamais été aussi rassemblée.
Le maire LR de Toulon, Hubert Falco, annonce qu'il quitte son parti.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, quitte son parti, dénonçant des dérives.
Et dans la tempête, vous remarquerez qu'il y en a toujours un qui trouve le moyen de glisser une blague un peu grivoise.
Il y en a un qui, à mon avis, a du souci à se faire, c'est le Premier ministre, parce que être cocu, c'est une chose, mais payer la chambre, c'est pire encore.
Et il y a même ceux qui glissent des blagues grivoises malgré eux.
Quand la droite se durcit, la droite se rétrécit.
Bref, du grand spectacle et de la bonne vieille politique, comme on l'aime.
Et alors, à part à droite, il y a eu d'autres coups de théâtre politique cette semaine?
Alors oui, vous savez, dans les bons feuilletons, quand l'intrigue s'essouffle un peu, il y a deux astuces. Soit vous musclez les dialogues, vous trouvez des punchlines.
Monsieur Mariani, oui, il a à peu près autant de conviction qu'un jeune chien devant un sac de croquettes.
Soit vous faites rentrer de nouveaux personnages au générique. Alors on y va.
Gérald Darmanin annonce sa candidature dans le Nord.
Marine Le Pen se porte candidate aux élections départementales dans son fief.
Éric Dupond-Moretti entre en campagne dans les Hauts-de-France.
Vous l'entendez, c'est plus un feuilleton, là c'est un péplum avec 400 figurants. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque encore quelqu'un, Cyprien ?
Mais qui ?
Mais si, vous la connaissez par cœur, c'est...
Elle est gentille, elle est tout gentille d'un côté, qui incarne cette espèce de politique molle dont on crève depuis 30 ans.
Nadine.
Nadine Morano, d'humeur joviale, hein, vous l'entendez, ouais. Qui clôt cette superbe séquence de politique bien à l'ancienne. Alors, on cherche toujours le nouveau monde, hein, la terre promise il y a 4 ans, et pour l'instant, rien à l'horizon.
Et alors, visiblement, dès que les échéances importantes approchent, le naturel revient au galop. Ça, c'était mon petit, ma petite analyse politique.
Hein, ah, c'est ça la conclusion.
Bah, c'est moi qui
l'ai trouvé. J'étais censé rebondir.
Non, pas du tout.
Non.
Faudrait que je retrouve un poste d'éditorialiste politique.
Moi, je préférais largement le chien et le sac de croquettes.
Ouais, c'est très bonne punchline. Ouais.
Vous avez été gâtés cette semaine, Marie.
Ouais. Ah, je suis d'accord, l'histoire des croquettes.
Le chien et croquettes, c'est formidable.
Du loser au winner. On y va pour le jeu.
Ah, et pour célébrer ce premier week-end de sans restriction de déplacement.
Vous dormiez, Cyprien ?
Vous avez jamais ma transition.
La surprise, quoi.
J'ai pas reconnu la musique du jeu.
Ah, très bien.
Pour célébrer ce premier week-end sans restriction de déplacement, donc on vous gâte.
Ah, la voilà. C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caradoni. Alors c'est un petit peu coquillage et crustacé le cadeau de ce soir.
C'est vrai, c'est toujours plus dans On défait le monde. Ce soir, vous jouez pour remporter un séjour de 2 nuits à l'hôtel Relais Château 5 étoiles Thalasso Spa. Je reprends ma respiration parce que c'est énorme. De l'île de la Lagune à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Toujours plus, je vous le disais, car on vous offre aussi le dîner dans le restaurant de l'Allemandin et son nouveau chef qui a une étoile au guide Michelin. Encore un peu plus, bien sûr. L'hôtel de la Lagune est tout simplement niché sur une île privée bordée par la mer avec vue sur les montagnes. Encore un peu plus.
Allez.
Ok, parce qu'au dernier étage se trouve un spa face à la Méditerranée. Encore plus.
Ça va être fini.
Il y a une piscine. Non, il y a une piscine. C'est super. Mais deux, c'est encore mieux. Quoi, encore plus ? Bah ouais, la deuxième est sur le toit. Encore un peu plus, pas de problème, elle est chauffée, ouais. Tous ces plus pour en faire le moins possible. Sérénité, douceur de vivre, ouverture des chakras, pourquoi pas, détente. Hôtel-île-lagune.com.
Et on est allé voir les photos en préparant super l'émission, cadeau. C'est hallucinant. Ouais, super cadeau.
Donc, question.
Donc, grosse question. Fameuse question. C'est la star de la semaine et de cette émission, Napoléon. Donc, question Napoléon. Sur quelle île est mort Napoléon ?
L'île de la Lagune ?
Non. Est-ce que c'est A, l'île de Sainte-Hélène, B, l'île Maurice, ou C, l'île flottante ? Bonne réponse, 32-10, 3-2-0. On tire un sort parmi les gagnants.
Faut répéter les
propositions. Sur quelle île est mort Napoléon ? Sainte-Hélène, l'île Maurice ou l'île flottante ? C'est cadeau, c'est un hôtel 5 étoiles, vous pouvez y aller. Hein.
32-10, le standard est accessible à partir de maintenant. Ouais. 3-2-1-0, allez-y.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde avec le sourire, 19h43, quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a disparu depuis. Mais alors ce soir, il y a une astuce.
Ouais. Car vous n'avez pas pu passer à côté. Toute la semaine, on a parlé de lui.
L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon.
L'Ajaxienne de Tino Rossi, Napoléon. On a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon. On a entendu et fait l'inventaire de toutes les choses qu'on lui doit. Le code civil, les préfets, l'urbanisme, les égouts. Et donc, en entendant tout ça, vous, Brice, vous vous êtes dit... Mais comment on vivait avant Napoléon ? Et donc, retour sur avant Napoléon, comment ça se passait ?
Alors, Napoléon n'est pas parti de rien. En fait, il a fait énormément de choses, mais avant lui, quand même, il y a des choses qui existaient. Le monde n'était pas qu'anarchie. Le premier exemple, c'est le Code civil, qui est toujours, vous savez, le texte de référence, qui a été rédigé en 1804 et qui est toujours en service pour régler les différends entre personnes privées, mariage, la propriété, etc. Et bien, avant Napoléon, pendant la Révolution, dès 1793, des projets de codification, des ébauches de code civil existaient déjà. Et bien avant cela, également, comme le détaille Clément Chevreau, il est doctorant en histoire des institutions à l'université de Poitiers.
Sous l'Ancien Régime, le cheval de bataille des rois qui vont se succéder, c'est de retrouver leur souveraineté. Pour ça, ils vont s'efforcer de regrouper des lois royales, une législation royale qui va prendre forme. Et donc, on aura déjà une première ébauche de codification, notamment avec l'ordonnance civile qui va être commandée par Louis XIV et qui aura pour but de centraliser les règles en matière de droit privé. Donc c'est l'ordonnance civile de 1670.
Donc dès 1670, il y a des tentatives de codifier les règles de droit.
Absolument, volonté de codifier, d'unifier le droit, volonté également d'organiser l'administration.
La centralisation administrative débute dès la fin du Moyen-Âge, et vraiment elle est intensifiée par le règne de Louis XIV avec, on le sait, le magnifique Colbert. Louis XIV veut centraliser l'administration, centraliser les finances, et donc il va renforcer, il va réorganiser son Conseil du Roi, qui c'est la plus haute institution de l'Ancien Régime. Napoléon, on sait très bien qu'il estimait essentiellement Louis XIV. Il s'est servi des institutions qui existaient déjà pour les renouveler.
Et quoi de mieux ? Ensuite, pour vérifier que tout se passe bien dans les régions, que ce soit en termes de justice ou d'administration, que d'y envoyer des préfets ? Et bien là encore, cette idée de Napoléon, elle n'est pas neuve.
Oh. Un petit peu avant Louis XIV, sous l'impulsion de Richelieu, on va voir se développer une institution qu'on appelle l'intendant. L'intendant, c'est un commissaire du roi. Dans toute la province, les intendants vont contrôler la bonne administration de la justice. Et on s'aperçoit qu'il y a des similitudes entre l'intendant et le préfet. Préfet qui sera créé par Napoléon Bonaparte.
C'est donc encore là une innovation de l'Ancien Régime.
Donc aucun mérite.
Si, si, quand même. Non,
Napoléon, vous êtes dur, hein.
Évidemment, ah, Napoléon Bonaparte en a, notamment celui-ci.
Malgré toutes les velléités du pouvoir royal, on n'arrive pas avant 1789 à avoir une uniformisation de la justice sur l'ensemble du territoire.
Et ça, Napoléon va quand même en partie le réussir.
Exactement. Il va vraiment, lui, il va parachever la centralisation administrative.
Uniformiser les règles pour faire de la France une nation. C'est quand même pas rien ce que réussit Napoléon. Et il le réussit, mais en s'appuyant, voilà, parfois sur des choses existantes.
Bon, et alors au niveau de l'urbanisme, là vous allez dire qu'il a rien fait non plus ?
Si, sur l'urbanisme, notamment à Paris, il met en marche, Napoléon, son sens pratique. Les rues tortueuses, dangereuses dans lesquelles se multiplient les épidémies, il veut les assainir. Il fait donc percer deux axes, est-ouest, la rue de Rivoli actuelle, nord-sud, le boulevard de Sébastopol, avec une idée en plus que nous livre Dimitri Casali, il est auteur de Paris Napoléon aux éditions Télémac.
Donner de l'eau aux Parisiens, parce qu'avant, moi j'ai écrit La France des rois de France, j'aime beaucoup les rois de France, mais je peux vous dire qu'avant l'arrivée de Napoléon, c'est vrai que Paris était quand même encore une ville extrêmement médiévale, sans eau potable. Napoléon va donner de l'eau aux Parisiens, il va construire 15 fontaines dans Paris, et enfin 10 km d'égouts. Les premiers égouts, c'est aussi lui.
Et les numéros de rue, c'est pas lui ?
vous m'en avez parlé toute la semaine, oui. Cyprien. Oui, Napoléon.
Ça, c'est fascinant quand même.
C'est vrai qu'avec vous, Napoléon, ça se limite un peu à ça, au numéro de rue. Peu importe. Mais figurez-vous que l'idée, elle avait germé sous l'Ancien Régime avec Turgot, qui était le contrôleur des finances sous Louis XVI. Mais ça n'avait pas été mis en place, en tout cas pas de manière satisfaisante, jusqu'à cette idée géniale de Napoléon.
Il a l'idée de diviser, bien sûr, la rue en côté pair, côté impair, mais toujours à partir de la Seine. Et ça, c'est quand même l'idée géniale que l'Europe entière va reprendre, parce que ça, avant lui, ça n'existait pas du tout.
Voilà, là encore d'un concept balbutiant, Napoléon en fait une idée qui traverse le temps.
Super billet, retour signé Brice Dugénie dans On défait le monde. Vous restez bien là, s'il vous plaît, 19h48, la troisième info pour briller au dîner, c'est juste après ceci. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À 19h49 dans On défait le monde, on est ensemble encore quelques instants. Troisième info pour briller au dîner ce soir avec Cyprien.
Et cette semaine, on apprenait que Bill et Melinda Gates allaient divorcer. Eux qui s'étaient mariés il y a 27 ans, réunis par une passion commune. Faire des puzzles. Oui, le puzzle, c'est la clé de voûte de leur mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
C'est vrai que ça fédère.
Bah ouais, bref, ça fédère. C'est pas ça qui va vous faire briller, mais c'est une histoire d'argent. Vous savez, on dit tout le temps qu'il est milliardaire, mais alors... Milliardaire comment ? Oui. Combien Bill Gates a gagné chaque seconde au cours de l'année écoulée ? Chaque seconde ? Eh bien, tenez-vous bien, 3856 euros. Même quand il dort, même quand il mange, 3856 euros. Hop, une seconde, 3856 euros de plus. Ah, encore 3856 euros. Bref, vous avez compris, depuis le début de cette info pour briller, il vient de gagner 115 680 euros.
Wow, ah, ça, ça le passionne dès qu'on parle d'argent.
3856 euros. 3856 euros.
19h50.
Marche. ou rêve.
Quand on met en valeur vos idées, vos initiatives dans Marche ou rêve.
Et ce soir, Laurent, ce sont des jeunes filles qui veulent renverser des montagnes que vous mettez à l'honneur.
Stop à l'autocensure des adolescentes. C'est l'un des objectifs de l'association Maxi Entrepreneur créée il y a 2 ans pour lutter contre le manque de confiance et d'ambition des jeunes filles. Des ados ont lancé des vidéos sur les réseaux sociaux et notamment celui très bien connu des jeunes générations, TikTok. Le nom du compte, Elles font pas genre. Divine a 20 ans, elle est l'ambassadrice de l'association. Bonsoir Divine.
Bonsoir.
Alors cette autocensure des adolescentes se traduit par exemple dans quel domaine ?
Par exemple dans tout ce qui va être les filières scientifiques, mais aussi tout ce qui va comporter en fait quand on fait des choix. En fait, c'est vraiment des choix qui sont inconscients. On va par exemple les filles vont se rendre plus dans des filières qui sont dans la santé, dans le social, et elles vont moins aller vers des filières qui sont des filières dans le domaine scientifique comme l'informatique par exemple.
Et est-ce que vous avez le sentiment de manquer de modèles féminins ?
Oui, parce que souvent quand on nous pose la question, que ce soit dans le domaine cinématographique ou que ce soit dans n'importe quel domaine, même dans celui de la cuisine, on a souvent des noms d'hommes à la bouche et très peu de noms de femmes.
Bah, un exemple très parlant, vous avez réalisé dans vos vidéos un micro-trottoir à Paris et interrogé des jeunes de votre âge.
Est-ce que dans le quartier, tu peux me citer le nom de rue portant le nom d'homme ?
La rue Auguste Comte.
Descartes.
Cardinal Lemoine.
Et est-ce que tu peux me citer dans le quartier le nom de rue portant le nom de femme ?
C'est plus compliqué.
Bien, je dois avouer que non, à part s'il y a une rue Marie Curie quelque part.
Ouais, voilà, c'est révélateur. Et vous-même, est-ce que vous avez un modèle féminin, Divine ?
Oui, moi je dirais Mangare Mutumatai. Elle a été prix Nobel de la paix en 2004. C'est une militante écologiste. Et en gros, elle a participé donc à lutter contre la déforestation au Kenya. Et elle a permis à des femmes défavorisées d'avoir des emplois.
Et alors, à travers ce compte TikTok, comment vous faites pour justement dire aux filles qu'il faut dépasser ces clichés de genre ? Allô ? Oui, vous m'avez entendu ?
Je pense que... En fait, c'est... Oui, allô ?
C'est bon, on vous a récupéré, Divine. Oui. On vous écoute.
Comment je fais ? Je pense que, en fait, ce réseau sert vraiment à donner plus de modèles féminins. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des filles qui font des choses impressionnantes ou pas, mais vraiment de montrer qu'en fait, les filles, elles peuvent entreprendre dans tout ce qu'elles veulent faire. Et on va, par exemple, mettre en avant la gestion des femmes dans le Covid. Ça va être, par exemple, également de donner des conseils aux filles, des conseils de confiance. Mais je pense que c'est vraiment plus général. C'est pas simplement de donner des modèles aux filles, mais c'est de permettre à tout le monde et à toute la société d'avoir des modèles féminins, qu'on soit filles ou garçons.
Divine, vous avez 20 ans. Est-ce que, avec vos camarades garçons, vous ressentez un peu parfois de misogynie dans leur discours ? Ou est-ce que c'est plutôt les personnes de 40, 50, 60 ans ou plus dans notre société ? Ou est-ce que vous le ressentez encore dans votre génération ?
Un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a certaines remarques. Par exemple, quand tu es une fille, on te dit que tu ne peux pas porter ceci ou tu ne peux pas porter cela, ou on est impressionné parce que tu fais ci ou parce que tu fais ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins, mais je pense que ça reste quand même entré dans les mœurs et qu'il faut continuer à lutter contre ça et justement donner à tout le monde la possibilité d'avoir plus de modèles féminins pour justement casser cette image-là d'une femme qui serait destinée à faire telle chose et pas telle chose.
Divine, en plus des vidéos sur TikTok et même qui sont disponibles sur Instagram, vous allez réaliser une émission le 19 mai pour parler des femmes d'hier, des femmes d'aujourd'hui. Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît, c'est dur à dire.
Oui, justement, donc après avoir fait cette chaîne TikTok, on a remarqué que ça marchait vraiment bien. Et du coup, on a décidé de se lancer dans une émission qui mettait en avant justement des femmes... d'aujourd'hui, des femmes du passé et également les témoignages des jeunes. Et tout ça, en fait, en traitant de la confiance en soi, parce que vraiment, l'objectif, c'est aussi d'aider les jeunes à développer des compétences, mais aussi leur permettre d'avoir confiance en eux. C'est le premier thème de l'émission. Et on le fait tout ça à travers des modèles féminins pour justement augmenter les modèles féminins dans notre société.
Voilà, bravo pour tout ce que vous faites au sein de l'association Maxi Entrepreneur et rendez-vous sur le compte TikTok Elles font pas genre.
Elles font pas genre.
Bravo à vous. Hein. C'est clair, net, précis. Paf.
Ouais, bravo. C'est du haut niveau ça.
Ah ouais.
On a une gagnante ce soir.
Absolument. Enfin, il faut qu'elle réponde bien à la question.
Bien sûr.
Mais elle est en ligne avec nous en tout cas. Nathalie, bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est la dame de Haute-Savoie. Vous appelez de Haute-Savoie ?
C'est ça.
Oh là là.
Vous êtes où, Haute-Savoie ?
Alors, on est au bord du lac Léman.
Ah ouais, d'accord. J'adore cette région, ce département, c'est pour ça. Vous savez la différence entre la Savoie et la Haute-Savoie ?
Bah, le nom.
Mais on parle pas de la Savoie.
Ouais. C'est, non, c'est que c'est pareil que la couture et la haute couture. Bon, allez.
Oh, oh, mais là, on va se mettre à dos un paquet de Savoyards. Pas du tout, on vous aime. Enfin, moi, oui.
Oui, mais je suis immatriculé 74, c'est pour ça. Oh. Alors, non, mais... la question pour savoir si Nathalie va gagner ce magnifique voyage en relais château 5 étoiles.
Je sais pas.
Napoléon, alors, sur quelle île est-il mort? Sainte-Hélène, l'île Maurice ou l'île flottante?
À Sainte-Hélène.
Bon, oh, séjour pour deux. 5 jours, 5
Alors, c'est 2 nuits. De nuit dans un 5 étoiles, voilà, c'est vrai que c'est confusant.
De nuit dans un 5 étoiles en bord de mer, Saint-Cyprien, l'île de la Lagune, c'est pour on défait le monde, c'est formidable.
Ça va faire du bien de changer de décor, hein, Nathalie, ça va être un plaisir.
Ah
ça.
Oui, libéré.
Délivré.
Libéré, délivré. Nathalie, on vous embrasse. Merci de votre fidélité. Bravo
merci
en tous les cas.
Et bisous à toute l'équipe. En tout
parce que
bravo,
la question, c'était du lourd ce soir.
Un bisou à mon chéri Fabrice. Pardon.
Bah, je vous en prie. Ah bah, vous êtes chez vous, c'est tout, que Fabrice.
Ouais, puis la famille. T'as toute la famille.
Et puis vous, Stéphane.
Allez, dans 74.
Mais profitez bien sur tout ce séjour.
Super cadeau.
Oui, pas du promis.
On se retrouve le vendredi prochain.
Ah bah, j'espère bien.
On sera là, 19h15, 20h pour défaire le monde. Ça sera un plaisir. Vous réagissez, vous commentez. Compte Twitter, page Facebook de l'émission et puis le podcast. Et les réseaux sociaux, enfin tout ça.
Ah ben, qui est déjà là.
Déjà là.
Le podcast
trop rapide.
Comment pourrait y avoir cette phrase par exemple dedans là.
L'actualité dans un instant et le foot en direct. Ah oh, putain.
C'est bien de finir sur du
Farmer. Bien sûr.
C'est Brice qui chante.
On défait le monde dans